Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient, Wallis Glaise. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio en visite à Paris aujourd'hui pour des discussions sur le conflit en Ukraine et la guerre à Gaza. Les précisions dans cette édition. Environ 30% du territoire de Gaza désormais désigné périmètre de sécurité. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué l'armée israélienne qui cherche à étendre son contrôle sur des vastes pans de l'enclave palestinienne limitrophe au sud d'Israël. La guerre civile au Soudan est entrée cette semaine dans sa troisième année sans aucune issue en vue après avoir fait des dizaines de milliers de morts. L'ONU estime que plus de 2 millions de personnes déplacées pourraient rentrer à Khartoum dans les 6 mois si les conditions de sécurité et les infrastructures le permettent. Pour Marc Laverne, en tout cas géopolitologue et spécialiste des crises en Afrique, ce ne sont que des mots, vous l'entendrez dans ce journal. Ah oui, je vous le disais, ce jeudi matin, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a atterri à l'aéroport du Bourget en région parisienne. D'après le département d'État américain, le secrétaire d'État doit rencontrer le président français Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot pour des discussions portant notamment sur le conflit en Ukraine et sur d'autres sujets diplomatiques. Arthur Claude Savoie, pouvez-vous nous en dire davantage sur cette visite ?
Oui, Wallis, ce jeudi, Paris est le centre des discussions diplomatiques avec la visite en France du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le chef de la diplomatie américaine est attendu par Emmanuel Macron et vient officiellement, selon un communiqué de presse du département des États des États-Unis, avec l'ambition de faire progresser l'objectif du président Trump de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et d'arrêter le carnage. Cette rencontre marque aussi la reprise du dialogue entre les États-Unis et l'Europe, alors que les négociations de paix étaient tendues. D'autres invités sont attendus dans la journée, c'est le cas de l'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, l'émissaire des États-Unis pour l'Ukraine, Kate Kellogg, et le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, accompagné de deux ministres. La présidence française a affirmé dans un communiqué que ces différentes rencontres permettront de faire le point sur les négociations de paix visant à mettre fin à l'agression russe de l'Ukraine. Elles feront suite aux conversations du président de la République avec le président Trump et aux travaux menés dans le cadre de coalition des volontaires. Selon l'Élysée, la situation au Proche-Orient sera également abordée dans une logique de désescalade de la région. La France travaille à préparer les conditions d'un cessez-le-feu et en particulier les conditions de sa surveillance, a également rappelé Jean-Noël Barrot. Une source diplomatique française a aussi indiqué à l'AFP que le dossier du nucléaire iranien pourrait être au programme. Des rares discussions entre Téhéran et Washington sur le programme nucléaire de l'Iran se sont tenues samedi 12 avril dans le Sultanat d'Oman. Des nouvelles discussions sur le nucléaire iranien sont prévues le 19 avril à Rome, toujours sur la médiation.
Merci Arthur Claude Savoie. Israël qui continue de cibler les civils à Gaza. La défense civile palestinienne a annoncé que des frappes aériennes et israéliennes sur des tentes abritant des personnes déplacées avaient fait 25 morts dans plusieurs zones de la bande de Gaza. Un haut responsable du Hamas a déclaré à l'AFP que le mouvement prépare toujours sa réponse à une proposition israélienne de cesser le feu de libération des otages à Gaza. Dans le même dossier, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné à son équipe de négociateurs de poursuivre les démarches en vue de libérer les otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Sur le terrain, l'armée israélienne a annoncé avoir transformé environ 30% de la superficie de Gaza en zone tampon, tout en poursuivant ses opérations militaires et en empêchant l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire. La guerre à Gaza est l'épisode le plus meurtrier pour les journalistes dans l'histoire contemporaine. Le nombre de journalistes tués à Gaza ne cesse d'augmenter depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. On écoute à ce sujet Jonathan Daguerre, responsable du desk au Moyen-Orient à Reporters sans frontières.
Selon nos constats, toutes ces attaques, ce blocus médiatique qui est imposé, et c'est vrai que les journalistes peuvent rentrer encadrés par l'armée israélienne, mais ils sont soumis à des restrictions, à la censure, donc c'est pas du tout suffisant. Ça s'inscrit dans une logique vraiment de tenter d'imposer un blackout médiatique sur la bande de Gaza, en empêchant les journalistes de travailler, en transformant le journalisme en métier meurtrier dans la bande de Gaza, et imposant la censure par la violence. L'objectif de ce blackout médiatique, c'est vraiment d'empêcher l'information de sortir. Et là, c'est un crime contre les journalistes, et comme on le répète toujours, c'est aussi un crime contre le droit du public partout dans le monde à être informé, à recevoir une information libre, indépendante, plurielle, c'est ce que défend RSF, depuis la bande de Gaza et depuis les zones de conflit en général.
Et à noter que des centaines de personnes se sont rassemblées hier à Paris et à Marseille à l'appel d'organisations journalistiques en solidarité avec leurs confrères tués dans la bande de Gaza. À Paris, environ 200 journalistes se sont allongés symboliquement sur les marches de l'Opéra Bastille, tandis que les noms des victimes étaient énumérés. Près de 200 journalistes ont été tués à Gaza depuis, je le rappelle, depuis le début de la guerre en octobre 2023. Dans le reste de l'actualité internationale, au Liban, deux personnes ont été tuées hier dans deux frappes israéliennes dans le sud du Liban. Selon le ministère libanais de la Santé, l'armée israélienne indiquait de son côté avoir visé des combattants du Hezbollah. Par ailleurs, l'armée libanaise a annoncé l'arrestation de Libanais et de Palestiniens impliqués dans des tirs de roquettes vers Israël. Une source sécuritaire a précisé que 3 membres du Hamas ont été arrêtés. Le Qatar a annoncé, dans le reste de l'actualité, toujours le Qatar qui a annoncé le renouvellement d'un don de 60 millions de dollars pour soutenir les salaires de l'armée libanaise, selon un communiqué conjoint publié à l'occasion de la visite du président libanais Joseph Aoun à Doha. La Syrie, de son côté, l'ONG Save the Children a alerté sur le fait que plus de 400 000 enfants en Syrie risquent de souffrir de malnutrition aiguë après que les États-Unis ont suspendu leur aide, forçant l'organisation à réduire ses activités dans le pays. Et après des espoirs d'apaisement entre la France et l'Algérie, les relations entre les deux pays sont un petit peu plus compliquées ces derniers jours, il faut le dire. Le ministre algérien des Affaires étrangères a mis directement en cause Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, en dénonçant son attitude négative et affligeante. Je cite « Je n'ai pas d'obsession pour l'Algérie, je sépare le pouvoir algérien du peuple algérien ». C'est ce qu'a assuré ce matin Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, chez nos confrères d'RTL. Écoutez-le.
Et je n'ai aucune obsession. Et je voudrais dire à ceux qui tentent de m'intimider que dès lors qu'il s'agit des intérêts supérieurs de la France, je ne suis pas intimidable. Je le dis aux autorités qui se reconnaîtront, au régime. Moi, je sépare le régime du peuple algérien. Le peuple algérien est un grand peuple. Et je voudrais dire aussi d'ailleurs à nos compatriotes français qui peuvent avoir des origines algériennes que je distingue bien les deux.
Et sur les relations entre la France et l'Algérie, Hasni Abidi, politologue algérien, revient sur la crise entre les deux pays. Écoutez-le.
Les relations entre l'Algérie et la France sont tellement complexes et il est très difficile d'en arriver à ce point-là. Le point de non-retour, ça veut dire une rupture diplomatique totale entre les deux pays, alors qu'on sait il existe encore des relations économiques très importantes, un flux d'échanges qui avoisine les 12 milliards, et vous avez aussi des consulats et deux ambassades qui sont toujours en exercice. Mais le dernier épisode dans la crise algéro-française est dangereux. Il rend la relation encore plus vulnérable dans la mesure où il y a un rappel d'ambassadeur français à Alger, il y a un renvoi de plusieurs agents consulaires français, mais aussi algériens, et bien sûr cette impression auprès des autorités algériennes que le président Macron a pris position, a soutenu la position de son ministre de l'Intérieur, alors qu'il est perçu à Alger comme plutôt un ministre, comme la cause principale de la déstabilisation entre les deux pays. Je pense que le président Macron garde encore ses chances intactes de revenir et de reprendre le dossier de la relation entre l'Algérie et la France, par défaut, parce qu'en dehors de lui, il est très difficile d'imaginer une reprise ou un retour à une situation normale. Seul le dialogue respectueux est en mesure finalement de sauver la relation entre deux pays qui sont très importants.
Hasni Abidi, politologue algérien au micro de Radio Orient. La guerre civile au Soudan est entrée cette semaine dans sa troisième année sans aucune issue en vue après avoir fait des dizaines de milliers de morts, déraciné 13 millions de personnes et plongé dans la famine une partie de ce pays d'Afrique de l'Est. L'ONU estime de son côté que plus de 2 millions de personnes déplacées pourraient rentrer à Khartoum dans les 6 mois si les conditions de sécurité et les infrastructures le permettent. Pour Marc Lavergne, géopolitologue et spécialiste des crises en Afrique, ce ne sont que des mots, on l'écoute.
Non, non, ce sont des mots. Hein. Il y a absolument aucun expert de l'ONU sur place. Il y a aucune présence étrangère. Donc, on ne fait pas de la géopolitique ou de la politique à partir d'images satellites. Hein. La ville a été complètement détruite, donc il faudrait la reconstruire. Alors, dans d'autres pays, il y a de l'argent, il y a des moyens techniques pour construire la ville. Là, il y a absolument rien. Il n'y a pas de machines, il n'y a pas de matériaux. Donc les gens vont reconstruire des briques, mais ces briques, elles sont des briques faites en glaise, en terre glaise qu'on récupère des bords du fleuve et qu'on fait cuire. Tout ça ne se fait pas en un jour. Hein. Et quant aux moyens, logistiques et les communications, etc., c'est un pays qui, de toute façon, n'était pas entièrement raccordé à l'électricité. La centrale pétrochimique qui existait et qui fournissait de l'essence à tout le pays, eh bien, elle a été bombardée, donc elle est hors service. Donc le pays n'a plus d'essence non plus. Donc comme la capitale est située à des centaines, voire des milliers de kilomètres du port, hein, de Port-Soudan, et que les moyens de transport sont extrêmement limités, il y a des questions logistiques qui se posent. Il ne suffit pas de donner un chèque pour que les choses se mettent en place. Hein. Il va falloir beaucoup d'implications de personnel technique, d'ingénieurs, etc. Et c'est pas la communauté internationale qui va le faire, ce sont les Soudanais. Or, les Soudanais, aujourd'hui, ont d'autres priorités, je dirais, que de reconstruire. Hein. Il faut se refaire des abris individuels, d'abord, bien sûr. Mais reconstruire un pays avec des bureaux, des administrations, des usines, des centrales, etc., tout ça prendra des décennies.
Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas d'issue en vue pour l'instant.
Non, je pense qu'il n'y a pas d'issue en vue. Il y a une sorte d'atténuation des conflits, je l'espère en tout cas, hein, et que la population civile va pouvoir un petit peu compter ses morts et éventuellement penser à reconstruire et à se réinstaller, mais sans aucune garantie que ça ne reparte pas demain. Donc il n'y a absolument aucun émissaire de l'ONU ou de quelque pays que ce soit qui est présent au Soudan. Les seuls qui ont essayé de faire quelque chose, c'est l'Union africaine ou bien d'autres groupes régionaux, mais qui sont divisés entre le soutien à l'armée ou aux forces de soutien rapide. Donc ça ne, même au niveau régional, ça ne peut pas embrayer sur une régularisation, sur une pacification durable du Soudan.
Marc Lavergne, géopolitologue au micro de Nawel El Amouchi. La page sport à présent, football, vainqueur à l'aller et au retour, Arsenal élimine le Real Madrid de Kylian Mbappé. Les Gunners de Londres se sont imposés, les Gunners seront donc opposés au Paris Saint-Germain dans le dernier carré pour les demi-finales. Dans l'autre demi-finale, toujours hier soir, victorieux 2-1 en Bavière, l'Inter Milan a cédé le nul face aux Allemands du Bayern Munich, suffisant pour se hisser dans le dernier carré de la compétition. Ce soir, place au quart de finale, retour de notre compétition européenne, l'Europa League, une des rencontres attendues, et celle de Lyon, seul représentant français qui se déplace à Manchester United. Coup d'envoi à 21h, l'occasion de revenir sur les enjeux de cette compétition européenne et sur cette belle soirée avec Fabien Boris, journaliste sportif chez Canal Plus Sport.
Lyon est capable de renverser Manchester United à l'extérieur, alors ça reste Manchester United, une institution, une équipe qui n'a pas perdu de la saison en Ligue Europa, mais ça reste un Manchester United malade. On a vu au match aller une maîtrise technique lyonnaise, une domination lyonnaise au niveau de la conservation du ballon. Je pense que si Lyon joue sans complexe et avec ses forces et ose le quatuor offensif Mikotadze, Lacazette, Cherki et Almada, bah ça, je pense que ça posera des problèmes à Manchester. Mais en même temps, Manchester a rendez-vous quand même avec sa fierté ce soir. C'est la dernière opportunité d'aller remporter, en tout cas un ticket pour la Ligue des Champions et un titre. Se faire éliminer par Lyon à domicile, je pense que ça entérinerait vraiment, s'il y a besoin encore, le déclin de Manchester United.
Pensez-vous qu'il y aura des surprises ce soir ?
Il y a des clubs qu'on attend quand même au tournant. La Lazio qui perd au match aller 2-0. Bon, d'un point de vue, encore une fois, de la fierté, du statut, du standing, des attentes, On peut s'attendre justement à une Lazio qui va absolument tout tenter et mettre le feu dès le début. Dans ce match-là, on peut s'attendre à des buts, voire un retournement de situation. Francfort-Tottenham, bah, c'est peut-être le match où il y a le plus d'indécision.
Qui voyez-vous comme les favoris de ces phases finales de la Ligue Europa?
C'est assez difficile de vous donner un favori comme ça. Je pense que ce sera plus facile de voir en fonction du tableau des demi-finales parce qu'on a des équipes qui se valent. On a Francfort qui réalise une très belle saison. Tottenham, c'est un peu plus dur en championnat. Bilbao, ça reste une valeur sûre avec notamment les deux frères Williams. Tant mieux, ça montre que cette Ligue Europa a un bon niveau, un beau niveau.
Des propos recueillis par Arthur Claude Savoie. C'est la fin de notre édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.